knew a man, Bojangles, and he danced for you.
Bonsoir à tous, bienvenue à Vagabondage, nouvelle saison en ce début du mois d'octobre. Très heureux de retrouver autour de moi une équipe qui était déjà là l'an dernier avec d'anciens, même de fondateurs, je crois, Benoît, non ?
Non, moi je suis juste un repreneur.
Oh, c'est chouette ça d'être un repreneur. Et puis donc l'an dernier, Sylvie Calais avait rejoint l'équipe. Et puis maintenant c'est un pilier fort de Vagabondage. Donc très heureux Sylvie de te retrouver pour une nouvelle saison.
Merci, bonjour.
Et puis Sandra était venue de temps en temps l'an dernier. Et puis cette année, ben voilà, maintenant ça va être un autre pilier de Vagabondage. Et j'espère qu'elle va nous emmener vers des chemins de grand vagabondage.
Merci Bertrand, bonsoir.
Bonsoir. Et puis alors évidemment la technique, le pilier, vraiment la force de Radio Calais et de Vagabondage, c'est Mathieu, bien évidemment. Merci à lui. Alors, qui dit rentrée, qui dit envie de revenir dans notre Calade, dans les environs de Villefranche, pour découvrir en fait plein de choses. Et l'envie dans cette première émission de rentrée de Vagabondage, de se dire, bah, quand même, à Villefranche, dans les environs, dans l'agglomération, il se passe plein de choses. Plein d'événements culturels, plein de rencontres, plein de moments à partager. Et on avait envie, tout simplement, ce soir, de vous faire partager, tous les quatre, nos coups de cœur, nos envies, nos films, les films que l'on a aimés, les livres que l'on a dévorés, les spectacles que l'on a très envie de voir ou que l'on a vus. Donc c'est pour ça que ce soir, ben, une sorte de tutti-frutti culturel vous attend. Alors l'an dernier, on avait une sorte de petite tradition qui s'est instaurée. Et on va continuer avec une chronique mensuelle, une chronique sur le mois. Alors là, évidemment, on est un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. On va partir avec Sylvie sur sa chronique mensuelle et sur le doux mois de septembre.
Oui, parce que je pouvais pas rater quand même le mois de la rentrée. Alors, le chiffre 7 a donné son nom à septembre, qui fut le 7e mois du calendrier romain avant de rétrograder au 9e rang. Septembre est un mois contrariant, il symbolise la rentrée, la sonnerie du réveil, le retour des contraintes. Il est aussi très cavalier, à cheval entre l'été et l'automne, le gazpacho et le potage, le bikini rikiki et les chaussettes à pompons. Aujourd'hui, ça serait plutôt les chaussettes, ce soir. Avec lui, on ne sait jamais sur quel sabot danser. Alors, pas étonnant que la fête de Jolly Jumper et de ses congénères équins tombe au mois de septembre. Pas étonnant non plus qu'après avoir dégagé la Vierge, septembre devienne le mois de la balance. En septembre, nombreuses sont les traditions. On chasse le raisin, on cueille les confitures, on vendange les champignons. On fête la bière à Munich et la gastronomie chez nous, car c'est bien connu, les Français ne pensent qu'à bouffer. De plus, ça n'a rien à voir, mais je tiens à le dire pour vous montrer la grande perversité de septembre. Dans la deuxième quinzaine du mois, naissent les moutards conçus la nuit de la Saint-Sylvestre, sous le gui pendouillant après la fête, dans une flaque de champagne où surnagent quelques cotillons imbibés et autres substances non identifiées. Vraiment pas de quoi être fier. À moins que ces natifs de septembre n'aient été conçus pendant la fête, dans un égarement bien compréhensible, en cette folle nuit débridée du 31 décembre où tout le monde s'embrasse à bouche que veux-tu sous prétexte qu'il est minuit, que je te lèche la poire par-ci, que je te suce la pomme par-là, va retrouver tes petits après ça. Alors, avant de continuer à dénigrer septembre, que j'adore en fait, hein, mais qui aime bien, châtie bien, et ce n'est pas Henri Désiré Landru qui me dira le contraire, hein, revenons au chiffre parfait, ce nombre premier, symbole d'éternité et anagramme de paix au pluriel, le chiffre 7. Car 7, c'était pas tant. Déjà, c'est le nombre d'orifices que l'on a sur la tête, en comptant les mirettes. En numérologie, 7 symbolise la spiritualité. Avec les homonymes de 7, on peut jouer mazette. Allitérons un brin. 7 à 7 à un 5 à 7 à 7 avec 7. Un dieu pas super coolos en fait. C'est étonnant, non ? 7 correspond à la lettre Z de l'alphabet hébraïque, Zayin ou Zayin pour les intimes. C'est vrai que 7 et Z ont un peu la même tête. Dans la Bible, Joseph rêve de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. À chacun ses fantasmes. Il n'y a pas une trompette de l'Apocalypse, mais 7. Il y a 7 collines à Rome, 7 jours dans la semaine, 7 chakras, et tout plein de fatales ruptures après 7 ans de mariage ou paxage, rapport à la lune, à Saturne, à la roue de la fortune, tout ci, tout ça. Mais il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Matthieu et il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. 7 ne peut pas être partout non plus. Bon, c'est assez de ce 7. Revenons à septembre. Car septembre a de bons côtés, quoi qu'on en dise. Ceux qui goûtent le piment des saisons se pâmeront devant les teintes épicées dont se pare la nature en automne, passant d'une fade couleur salade à de flamboyants camaïeux de safran, paprika, muscade, curcuma, cannelle, harissa, pili-pili. Les gourmands évoqueront plutôt des teintes miel, mocha, caramel, vanille, abricot, prune avariée. Les hédonistes préféreront célébrer l'été indien. Lumière dorée sur sable fauve, coucher de soleil cuisse de nymphes émues marginées d'orange tangerine, chaton passe velours, pistil pourpre velouté, ciel de lit, cramoisi et corolle carmin. Les nostalgiques et les vieux, en général ce sont les mêmes, se souviendront quant à eux des vacances interminables d'antan. La pause d'août ayant été instaurée par le pape Grégoire IX en 1231 dans les universités, pour que les étudiants puissent aider leurs parents au champ, elle fut ensuite prolongée jusqu'à mi-septembre pour coïncider avec les vendanges, une tradition qui a longtemps perduré. Ils se souviendront de l'odeur d'humus en forêt où, après avoir joué à touche-pipi derrière un chêne avec leur petite voisine, ils faisaient craquer les feuilles mortes pour éviter de se faire tirer dessus par un chasseur bigleux. Des petits bonhommes fabriqués avec 2 glands et 5 allumettes, du raisin lourd et sucré qui pégait sur les doigts, des figues violettes qui fondaient sous la langue, du cuir craquant de leur cartable marron à bretelles garni d'une trousse tachée d'encre bleue et de chocolat crunch. Durant ces 15 jours de septembre, ce rap d'été inespéré, venait le temps béni de l'ennui, celui où il fallait réinventer le jeu, ranger ses placards, réapprivoiser le quotidien, et retrouver, à force de désœuvrement, l'envie de récréation toujours trop courte, sifflée par une maîtresse acariâtre et moustachue. Mais tout ça, c'est peanuts à côté du vrai privilège de septembre. Et là, je m'adresse aux parents d'aujourd'hui, épuisés par une marmaille insolente, affamée, exigeante, qui a ruiné leur été dans tous les sens du terme. Madame, monsieur, réjouissez-vous. En septembre, vous allez pouvoir refourguer vos gosses à l'école et retourner au boulot. Enfin, du repos.
Merci Sylvie.
Ça veut dire surtout se lever plus tôt.
Il y a ça. Ah, moi, j'ai surtout retenu l'été indien. Hein. Ça, c'est... Alors donc, comme nous l'a très clairement dit Sylvie, c'est la rentrée. Et effectivement, maintenant que les enfants sont à l'école, on a plein de temps pour, voilà, pour découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux spectacles, de nouveaux films, etc. Alors c'est vrai que... Très souvent, à Villefranche, quand on parle culture, d'un point de vue un peu institutionnel, on pense Théâtre de Villefranche, qui est une sorte de grande institution. Je ne sais pas si c'est une institution que vous fréquentez.
Assidûment. Ce qui est bien organisé à Villefranche, c'est que quand on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue culturel ou artistique, il suffit de se rendre sur la place bien nommée des arts. Pour avoir une jetée d'œil, un conservatoire, un auditorium, un théâtre, une librairie.
Des kiosques même.
Des kiosques,
tout
oui,
ce qu'il faut en fait, pour se ravir.
Ouais, non, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que le programme du théâtre, chaque année, alors évidemment très attendu, il faut se battre parfois pour obtenir des places, mais pas tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a quand même une très très belle programmation. Donc je ne sais pas si vous avez déjà repéré quelques petites choses, ou pas sur ce théâtre-là.
Non. Peut-être en musique. Moi, en tout cas, j'ai repéré dès la semaine prochaine, dans une semaine, là, un concert avec un harmoniciste. Alors, il n'y a pas que lui, mais en tout cas, ils sont trois ensemble à jouer du jazz. Ouais. Il y a, en tout cas, il y a Jean-Jacques Milteau, c'est celui que je retiens parce que c'est un très grand harmoniciste. Voilà.
Cross Border Blues.
Voilà, pour le Cross Border. Voilà. Et puis avec aussi le violoncelliste Vincent Segal.
Vincent Segal et Harrison Kennedy.
Voilà. Je le connais un peu moins
pas
que les deux, mais en tout cas, Vincent Segal aussi qui fait de très belles musiques et souvent de beaux duos avec des albums qui racontent des histoires, notamment un album sur Patrice Lumumba, par exemple, que je retiens de lui. Et puis voilà, Milteau avec la chaleur de son harmonica qui accompagnait tous les artistes français qui ont mis de l'harmonica dans leur musique, que ce soit Renaud, Eddie Mitchell, voilà. Donc moi, ça me fait vraiment envie parce que il y a un petit côté quand même de blues américain qui avait un peu teinté de français là qui va venir résonner.
Ben, ça sera le mardi 8 octobre à 20h30, et effectivement au théâtre. Et juste avant, il y a. Alors, c'est un metteur en scène qui est assez surprenant, qui s'appelle Étienne Gaudillère, qui avait fait l'an dernier une histoire de Wikileaks. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. C'était assez surprenant, une mise en scène assez folle. Et sur Wikileaks, on ne savait pas bien à quoi s'attendre. Et là, il revient cette semaine avec Cannes 39-90. Et c'est effectivement l'histoire de Cannes depuis 1939 jusqu'aux années 90. Et c'est complètement loufoque, barré, très intelligent aussi. Donc voilà, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça sur Cannes au théâtre? Et puis au final, pour avoir, je ne l'ai pas vu, mais pour avoir aperçu quelques petits extraits, et ben ça m'a l'air très tentant. Et c'est vrai que on peut piocher, c'est ça qui est assez génial dans une programmation théâtrale. On pioche, soit on a très 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 faim et on prend l'intégrale, le menu complet, soit effectivement on pioche et c'est vrai que l'équipe du théâtre me disait que c'est de plus en plus ça, les gens prennent de moins en moins d'abonnements mais vont beaucoup piocher au fur et à mesure de la saison. Et puisqu'on parle de théâtre, il y a un autre théâtre qui est moins connu et pourtant il a plus de 20 ans. C'est, je trouve, ce petit théâtre pêle-mêle alors évidemment, c'est un peu au fond d'une cour, etc. Mais ça fait 20 ans qu'il y a une équipe de bénévoles qui se bat pour maintenir ce théâtre, pour proposer une programmation qui a du sens. Et Sylvie, toi, tu as vu le premier spectacle de la saison?
Oui, moi j'ai vu L'île pourpre, donc mise en scène par Étienne Brack, dont l'auteur est Mikhaïl Bulgakov, qui a écrit Le Maître et Marguerite. Et j'ai trouvé ça très très drôle, très enlevé. Donc voilà, c'est une directrice de théâtre populaire à Moscou qui doit monter une pièce qui doit être validée, et non pas censurée, mais elle doit la monter de toute urgence. Hein, parce que donc il faut qu'elle trouve un auteur très vite, il faut qu'elle trouve des comédiens très vite. C'est très farfelu, c'est très enlevé. Les comédiens se déguisent, ils partent à travers l'océan. Donc il y a une mise en scène très inventive.
Hein. Ouais, c'est vrai que puis Étienne Brack est un grand metteur en scène.
Ah oui, c'est un grand metteur en scène, des acteurs très très bons. Vraiment, moi je me suis laissée emmener dans cette île pourpre avec ces acteurs-là.
Et donc on peut, alors c'est fini pour l'instant pour le théâtre, mais on peut retrouver cette pièce donc au Castelcom à Ans.
Oui, les 2 et 3 novembre au Castelcom et à Arnas.
Et alors au salon du livre, des livres et des histoires à Arnas le 14 décembre, au soir. Donc voilà. Et puis je vous parlais donc du théâtre pêle-mêle, 20 ans. Il y a un autre théâtre qui a 20 ans, c'est le théâtre de Glézé, qui est un petit théâtre de 110 places, qui est mignon comme tout, et qui a aussi sa programmation. Donc on est vraiment aux portes de Villefranche, donc il ne faut pas hésiter à franchir les limites de la ville. Et là, pareil, il y a tout un ensemble. Alors, on n'a pas le temps de détailler, mais voilà, jetez un petit œil, parce que, comme à chaque fois, dans tous ces petits théâtres, il y a toujours de bons moments.
C'est une ville de théâtre, il y a des compagnies.
Tout à fait, il y a des compagnies de théâtre. Voilà, il y a même des radios.
Ils sont en résidence au Théâtre de Glisé.
Compagnie du Boulevard, je crois, non, c'est
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui.
Et donc, voilà, c'est toujours assez magique et parfois pas besoin d'aller loin.
Juste au niveau théâtre, si je peux rajouter, le Théâtre Pêle-Mêle organise un mini festival du rire. Je crois que c'est la première fois qu'ils font ça. Ça doit démarrer le 12 octobre. Ouais. Voilà, sur 3 jours avec des one man show,
ouais,
avec
fait,
des spectacles aussi pour les enfants et pour les adultes.
Donc, si vous n'avez pas, vous pensez jamais à regarder forcément le programme de Pêle-Mêle, allez-y parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui se font. Voilà. Alors, qui dit théâtre dit un peu cinéma. Alors, peut-être, alors le cinéma, évidemment, à Villefranche, c'est les 400 coups, mais il y a aussi le CGR, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a une belle affinité avec les 400 coups. Et donc, évidemment, il y a toujours plein de choses. On ne va pas les détailler. L'idée, c'est d'aller dans ce très, très bon cinéma art-essai. Peut-être, Sandra, un coup de cœur du moment.
Eh bien, un coup de cœur, effectivement, que j'ai pu voir, découvrir aux 400 coups, c'est 2 mois de Cédric Clapiche, le retour de Cédric Clapiche, après qu'il se soit rendu pas très loin de chez nous, puisque dans son avant-dernier film, Ce qui nous lie, il était parti en plein vignoble de Bourgogne. On se demandait d'ailleurs comment allait-il filmer la nature, lui, le cinéaste des villes. Il s'en était très très bien tiré, mais avec 2 mois, le voici de retour à Paris. Donc on a la joie de retrouver le Paris de Clapiche avec sa vie de quartier. Et là, si on retrouve effectivement un petit peu les quartiers avec un clin d'œil à son premier film, au film qu'il a fait connaître, Chacun cherche son chat, on retrouve moins la convivialité de quartier qui s'exprimait dans ce film, Chacun cherche son chat, et là elle est un peu plus ténue parce que dans ce film il s'agit vraiment de l'ultra moderne solitude, comme dit Alain Souchon, Clapiche nous parle de ce thème là au travers de 2 personnages principaux que sont Mélanie, jouée par Anna Girardot, et Rémi, le discret François Civil, et qui pourtant creuse son sillon. Et en fait, ces 2 jeunes trentenaires habitent l'un à côté de l'autre, 2 immeubles adjacents, mais ne se rencontrent pas jusqu'à ce que quelque chose se passe. Voilà, parfois ils marchent ensemble sur le même trottoir, mais jamais ils ne se voient, jamais ils ne se parlent. Donc avec ce film, Clapiche nous parle d'un thème un peu éculé, qui est l'incommunicabilité dans un contexte un peu orgiaque en termes de moyens de communication, mais il le fait avec son style qu'on appelle aujourd'hui clapichien.
C'est ça les grands.
Voilà, et il nous montre un petit peu le paradoxe des grandes métropoles, comment on peut être dans une très grande proximité physique, notamment dans les transports, puisqu'on voit beaucoup les transports, métro, train, voilà. Et comment en même temps cette proximité devient promiscuité et on cherche un petit peu à se protéger de ça, et comment finalement on tombe aussi dans une forme d'isolement psychique. Mais comme Clapiche est quand même un cinéaste très optimiste, au travers de quelques personnages hauts en couleur et au travers de 2 psychothérapeutes qui vont accompagner et le jeune homme et la jeune femme, il va s'agir en fait de toute la construction, de la consolidation de l'intériorité de ces 2 jeunes trentenaires qui sont un petit peu mal barrés dans la vie, un peu perdus. Et voilà, c'est un très très joli film.
Donc un film que
très joliment. Avec une très très belle photographie que j'ai trouvée absolument exceptionnelle, très soignée, très épurée.
Donc Paris.
Des très beaux tableaux. Paris, mais aussi des scènes d'intérieur avec des très belles teintes dans les roses, dans les verts, etc. Et des très beaux tableaux aussi. C'est un film très très soigné au niveau de la
photographie. À recommander.
Ah oui, absolument. Absolument.
Benoît, il y a une expression au Cameroun, en français, je trouve qui se marie très bien avec cette histoire et qui pourrait même mettre le titre de ce film, c'est que chacun est dans son chacun.
Oui. Tout à fait, tout à fait. Et puis, moi, j'ai juste à recommander, presque comme chaque année, le dernier film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York. C'est toujours beau, en fait. Mmh. Voilà, les acteurs sont toujours superbes, la BO, on n'en parle même pas, jazzy comme on aime. Et voilà, et on se retrouve avec un jeune acteur qui s'appelle Timothée Chalamet, qui est voilà, très doué, plein de vie, et c'est super. C'est juste 1h52 de plénitude. Et puisqu'on parle de plénitude, je vous propose une petite pause musicale avec une chanteuse, Lana Del Rey, qui est le symbole de la Californie, de l'hédonisme californien, et qui a repris une chanson qui s'appelle Doing Time, une chanson culte du groupe Sublime, Lana Del Rey.
Time and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. This veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime.
Sur Radio Calade, dans l'émission Vagabondage, nouvelle saison, avec autour de la table Sylvie, Sandra et Benoît. Et donc on continue à partir, à vagabonder dans la rentrée culturelle de Villefranche et de son agglo, sur nos coups de cœur aussi, parce que tout ça est très subjectif, bien évidemment. Et alors, on avait envie de parler, peut-être rapidement, mais quand même un petit peu, des expos. Parce que, en fait, quand on regarde un peu de près, je trouve que c'est assez extraordinaire de trouver sur Villefranche et dans l'agglomération proche beaucoup de lieux. Beaucoup de lieux d'expos, beaucoup de galeries. Et je trouve qu'on est très, très chanceux. Alors, si, juste pour quand même les citer, parce que je trouve que c'est toujours important, vous avez sur Villefranche la galerie 116, plutôt autour d'art contemporain, voilà, où il y a de très belles choses qui sont faites, des expositions tous les mois. Vous avez toujours, alors sur Villefranche, limite Glaizé, vous avez le hangar 717 qui a ouvert avec Marc Pedoux il y a 3 ans, qui est un lieu assez irréel, au fond d'une impasse. Et voilà, et Marc nous propose toujours des choses très 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 intéressantes, donc regardez le site du hangar. Si vous franchissez un petit peu la Saône, allez du côté de Farin, vous avez Sylvie
Redoux, galerie de la Praille.
Voilà, la galerie de la Praille, je ne sais jamais comment on le prononce, de Monsieur Fabry, et là pareil aussi, le lieu est magnifique, la vue sur le Beaujolais est magnifique, et il y a parfois de très belles expositions. Je parlais du Beaujolais et la galerie Chiboulski qui se trouve à Jarnieu,
Ville-sur-Jarnieu.
Sylvie y est tout le temps. Alors un petit mot pour inciter à aller à Ville-sur-Jarnieu voir la galerie Chiboulski.
Eh ben, de très belles expos, une ambiance très conviviale, des vernissages toujours très réussis avec souvent de la musique, des chansons à la clé. Donc moi je vous invite vraiment à aller découvrir ce lieu si vous ne le connaissez pas encore. Alors la première fois on se perd, c'est normal, donc prenez le numéro de téléphone. Mais après, une fois qu'on sait où c'est toujours merveilleux.
C'est un genre de rite initiatique, non, pour
voilà. Oui, c'est complètement ça. J'ai dû mettre 2 heures pour y aller. Donc, et on se dit, c'est pas possible que là, il y ait une galerie.
Il faut se perdre.
Il faut se perdre une fois. Mais ça, c'est rituel.
Ouais, c'est très. J'ai oublié quand même sur Villefranche de citer un nouveau lieu qui est peut-être. Qui est une. C'est Nelly Descheries qui a ouvert ça, galerie d'art contemporain, dans un appartement, son appartement. Et vraiment, c'est magnifique aussi. Hein. Voilà, ça se retrouve rue Boiron. Et puis alors, vraiment, la dernière venue, c'est la Villa Hispanica, qui vient d'ouvrir ses portes à Cogny, il y a de ça quelques jours, avec une expo assez... Alors déjà, le lieu est bluffant. Très, très belle maison vigneronne qui domine le village de Cogny. Et puis, donc, une première exposition. Alors le propriétaire des lieux est un professeur d'université, spécialiste de l'Amérique du Sud et en particulier du Mexique, et il a fait une première exposition avec alors des photos d'un photographe mexicain, mais aussi 2 auteurs qui ont été invités. Alors, un auteur qui est Christophe Renoux, qui pour ma part, que j'affectionne beaucoup. Christophe Renoux a une passion assez immodérée de Frida Kahlo. Donc, évidemment, Frida Kahlo a envahi la Villa Hispanica. Mais également, une autre artiste qui s'appelle Fabienne Germain, qui est de Cogny, et qui a fait des choses magnifiques. Elle travaille à partir du papier, voilà, tout un univers autour du papier. Et je crois que Sandra, tu as beaucoup aimé Fabienne Germain.
J'ai beaucoup aimé l'exposition dans son ensemble, parce que je trouve que le cheminement était très agréable entre cette première salle avec les photographies là, de Juan Manuel Ramirez.
Bravo.
J'ai noté son nom, j'ai surtout apprécié les photographies. Et puis ensuite, on descend, on s'enfonce dans les anciennes caves. Et là, ils ont vraiment réussi sur le thème de la fête des morts une très très belle décoration avec quelques objets traditionnels mexicains. Et puis effectivement, les 2 artistes que tu viens de citer, et moi j'ai une affection particulière pour Fabienne Germain, que j'ai d'ailleurs découvert grâce à vous, je crois, Bertrand, Sylvie, et elle s'est lancée sur le thème du Mexique avec notamment un petit tableau que j'ai adoré, donc en papier découpé, coloré, parce qu'elle est souvent dans des plutôt des productions monochromes. Ouais. Et là, évidemment, très colorée, où elle a représenté Frida Kahlo, comme on la connaît dans ses autoportraits. Et puis aussi sur le thème de la fête des morts, avec des têtes de morts en papier découpé, monochrome, ou avec de la couleur, des couleurs fuchsia, jaune, citron. Enfin, des très très belles choses présentées sur un socle en bois.
Ouais.
Vraiment très très joli travail, très très délicat, très original.
Et cette exposition donc a lieu évidemment jusqu'au 2 novembre, c'est-à-dire Fête des Morts, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à y aller parce que c'est un lieu assez surprenant à découvrir, une très très belle initiative que la Villa Hispanica. Et je voulais quand même, pour finir sur les expos, citer un week-end. Alors c'est le week-end du 4, 5, 6 octobre, un week-end assez superbe pour visiter des ateliers. En fait, ça s'appelle les ateliers révélés, et c'est chaque année, et c'est différents artistes qui se regroupent, qui ouvrent leurs ateliers, que ça soit à Jargnoux avec Martine Mérieux, que ça soit justement à Ternant avec Christophe Renoux et un autre artiste qui est Serge Castillo, que ce soit Fabienne Chemin, etc. etc. Regardez, allez tout simplement sur internet Atelier Révélé, et là vous avez un joli parcours pour le week-end prochain, vraiment des artistes de grande qualité. On continue un petit peu à se balader dans notre univers culturel, et on peut aussi se balader en musique. Et pour introduire notre vagabondage musical, j'avais envie de vous faire découvrir une chanteuse qui est marocaine, qui s'appelle Oum, et qui chante en darija, qui est donc le dialecte marocain. Et elle a tout un univers onirique, d'Orient, qui est assez magnifique. Je vous laisse découvrir Oum.
Ah, hi, Anna.
bienvenue sur Radio Calade, l'émission Vagabondage. Vous savez que cette émission, elle est le mardi soir, mais elle est également le samedi à 14h. Donc n'hésitez pas à réécouter et puis à en parler surtout autour de vous. Et donc autour de la table, nous sommes toujours avec Sandra, Sylvie et Benoît. Et on continue notre vagabondage culturel de rentrée avec nos coups de cœur, nos envies, parce qu'il y a plein de choses que nous n'avons encore pas vues. Et donc on voulait parler un peu de musique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique quand même dans à Villefranche et dans les environs. Alors évidemment, on pourrait passer des heures. Alors juste un petit flash autour, moi, des concerts de l'auditorium. Les concerts de l'auditorium, ce n'est pas l'auditorium en tant que tel, c'est une structure qui est dirigée par une main de maître, par Cécile Jacquemont, et chaque année il y a une programmation assez extraordinaire, et juste un petit aperçu, le vendredi 15 novembre ou le samedi 16 novembre avec Juliette, Michel Bernard, Gérard Morel, Bernard Joyet, quatre personnes, quatre talents. Voilà, là c'est un exemple d'une super soirée. Et puis il y a une nouveauté cette année au concert de l'auditorium. Ils ont investi, et je trouve que c'est une super idée, un lieu à Bellini, pour que aussi être au cœur de ce qu'on appelle entre guillemets les quartiers, où évidemment des populations qui n'ont pas forcément l'opportunité, ni l'idée, ni l'envie de venir à l'auditorium. Et voilà, et donc il va y avoir aussi toute une programmation tout au long de l'année à Bellini. Donc belle initiative des concerts de l'auditorium, ne ratez pas les concerts. Alors, à ce stade de l'émission, j'ai en face de moi un homme qui a devant lui des choses assez bizarres. Et Benoît nous promet des souvenirs, des rencontres, des choses bizarres.
Je vous avais promis cette année que moi j'allais reprendre le vagabondage à son essence première, c'est-à-dire aller dans tous les sens.
Voilà, accrochez-vous, et oui, courage à tous.
C'est d'abord une rencontre dans l'enfance, c'est ces objets-là que j'ai devant moi. Et puis vous savez, c'est comme quand on recroise une vieille amie d'enfance à l'âge adulte, c'est ce qui m'est arrivé cet été. Alors je vous ai apporté des guimbardes. Alors pas des vieilles voitures. Hein, c'est vrai que souvent d'ailleurs le mot guimbarde, ça donne pas trop envie. La guimbarde, c'est, paraît-il, le plus vieil instrument du monde. Et l'instrument qui existe partout dans le monde. Alors la guimbarde, je pense que vous connaissez tous en fait le son, vous savez, dans les dessins animés. Il y a toujours un moment, surtout dans les cartoons ou les Tex Avery, où il y a un bruit de ressort. Et la guimbarde, c'est le bruit de ressort, c'est le truc qui fait comme ça.
Ah oui.
Voilà, tout le monde connaît ce bruit. Alors, c'est vrai que chez nous, c'est plutôt un jouet pour enfants qu'on trouve dans les magasins de musique, hein, pour à peu près entre 5 et 6 euros. Voilà. Et moi, j'en avais acheté une comme ça, vers l'âge de 10 ans, une guimbarde toute simple, à mi-chemin entre le jouet et l'instrument. Et puis, un peu plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, un cousin qui est parti en vacances au Vietnam et qui m'a rapporté une guimbarde du Vietnam qu'on appelle la guimbarde Dan Moy, qui est jolie parce que vous voyez.
La guimbarde, pardon ?
Dan Moy. C'est son nom en vietnamien. Elle est rangée avec une petite ficelle. Alors, je vais vous faire écouter ça et vous allez imaginer. Dans un bambou. Hop, elle se range comme ça dans un bambou et puis on la sort, on peut en jouer. C'est un petit morceau de laiton qui est découpé et ça a l'air tout bête comme ça. Une jolie petite guimbarde qui se joue contre les lèvres.
D'accord.
Bon, le temps est passé.
Tu as grandi.
Un jour, à Belleville, dans un magasin de musique, voici que je vois cette magnifique guimbarde. À la fois faite de bois avec une tête d'oiseau et puis une lamelle, parce que oui, la guimbarde, il y a une lamelle et puis il y a un cadre qui est soit en bois, soit en métal. Alors il y a des guimbardes tout en bambou aussi. Mais en tout cas, celle-ci, je l'avais trouvée tellement jolie que je l'ai achetée. Vous savez, des fois, on se dit, tiens, je sais pas ce que je vais en faire en plus, mais je l'ai achetée. Je l'ai trouvée jolie et puis cette année, je l'ai emmenée en vacances.
Oh là là. Pauvres enfants, pauvres femmes.
Mais oui, pauvres enfants. Je leur ai cassé les oreilles toutes les vacances avec ma guimbarde que j'ai traînée partout.
Comme quoi Sylvie disait dans sa chronique vivement que les enfants retournent en classe.
Ben mais... Là, c'était vivement que papa retourne au travail.
Voilà, c'est ça. C'est l'inverse.
Et puis ben, finalement, là, de fil en aiguille, cette fois-ci, je me suis intéressé à cet instrument. C'est-à-dire qu'on se connaissait, on se côtoyait. Et puis là, non, cette fois, j'avais envie de faire connaissance. J'avais envie de savoir qui il était. Elle avait l'air si simple et en même temps... Il y a plein de possibilités avec. Alors, c'est vrai que c'est assez simple à regarder à première vue. Voilà, c'est souvent composé d'un cadre, avec
des objets,
dans lequel une languette est sertie. Mmh. Voilà, on peut se demander, même si on n'a pas acheté ça au rayon bricolage, rayon plomberie, voilà.
Oui, tout à fait. Oui,
ça se joue contre les lèvres.
C'est un bel objet.
Comme les guimbardes vietnamiennes, elles se mettent contre les lèvres ou alors contre les dents. Parce que c'est le corps du joueur ou de la joueuse qui va faire résonner son guimbarde. Parce que tout seul, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, le son d'un guimbarde tout seul. Voilà.
Mais c'est marrant parce que quelques notes et on a l'impression qu'on est déjà dans le Grand Ouest.
Exactement. C'est ce que j'étais en train de penser. C'est quand même l'instrument du western.
Ah, aussi, oui. Alors, d'un western en particulier, oui. Du western spaghetti.
Exactement.
Quand même.
Ah, yes.
Exactement.
Et oui, pas n'importe lequel, c'est celui du western des Italiens, de Sergio Leone. Oui. Parce que oui, il y a des guimbardes en Sicile et que c'est un grand lieu de la guimbarde.
Ah, ouais.
Alors, selon les régions du monde, elles ont des noms, des formes et des sonorités différentes. Par exemple, en Sicile, on les appelle des maranzano. Le nom, ça veut dire « chasser la peine ». Ah, déjà,
C'est beau.
C'est un peu différent que dans notre français, on dit une guimbarde. En Hongrie, ce sont les dromblas, ou alors en Slovaquie aussi, en tout cas tous ces pays limitrophes de la Hongrie. En Russie, on trouve des varganes, qu'elles viennent de l'Altaï, ou qu'elles viennent de la République de Touva, qui fait partie de la Russie aussi. Et puis chez les Yakoutes, à l'extrême ouest-est de la Russie, on appelle ça des komus. Et elles ont tout en commun que ce sont des instruments méditatifs, que ce soit le berger sicilien ou alors, l'éleveur de rennes yakout, tous ont une guimbarde pour un moment passer le temps et pour méditer. Et parfois même, chez certains peuples, c'est un instrument de soin. Chez ceux, par exemple, qui utilisent encore le chamanisme pour soigner, c'est un instrument de soin, la guimbarde. Alors tout de suite, j'ai commencé un peu à la prendre au sérieux quand j'ai découvert tout ça. Parce que j'ai aussi remarqué qu'on en jouait très sérieusement en Norvège. On les appelle des moon harps. Alors c'est un instrument qui est à la fois harmonique au sens premier du terme. Mmh. C'est-à-dire que jouer de la guimbarde, il y a une seule note, il y a une seule lame, et on va faire résonner avec notre bouche les harmoniques de la note fondamentale. C'est-à-dire qu'on va révéler toutes les harmoniques qui sont contenues dans cette petite lamelle, dans cette seule note qui existe pour créer des sons et des rythmes. Et c'est donc aussi un instrument rythmique. La guimbarde qu'on appelle en anglais Joe Harp, je ne sais pas si je le dis correctement, c'est-à-dire la harpe de mâchoire, qui s'est transformée, on ne sait pourquoi, en Jew's Harp chez certains, donc la harpe des juifs, je ne sais pas comment le glissement a eu lieu, est un instrument dit intuitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à en jouer, il suffit juste d'en avoir une et de commencer à jouer. Et on ne sait pas à l'avance la mélodie qu'on va jouer ou le rythme que l'on va jouer. C'est un peu la rencontre entre le joueur, la joueuse et l'instrument qui va créer quelque chose. On ne prévoit rien. On plaque la guimbarde contre ses dents, on laisse faire la partie intuitive de notre esprit. C'est un jeu de l'intention. De l'intention et de l'intuition, et non d'un jeu volontaire. C'est en cela que la guimbarde est l'instrument qui accompagne les voyages intérieurs des chamans et des méditatifs qui l'utilisent. Les Yakoutes, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui habitent la Yakoutie, ont fait de la guimbarde, les komus, leur instrument national. Tous les Yakoutes possèdent une guimbarde. Ils jouent de la guimbarde pour maintenir leur lien à la nature, avec un jeu d'imitation et d'interprétation. Et la guimbarde est aussi utilisée par les Yakoutes comme médiatrice de leurs émotions, pour pouvoir les partager, les dévoiler, pour dévoiler leurs états émotionnels, et aussi, à un moment, en miroir, pouvoir les accepter. Et là, ça devient vraiment un instrument complexe, cette petite guimbarde. Alors là, par exemple, on est en train d'entendre, au fond, un grand joueur yakout qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais en tout cas, je vais tenter, Spiridon Shingsingin, avec un morceau qui s'appelle « Cheval blanc ». Voilà, juste l'intention de pouvoir mimer le cheval blanc qu'il a vu courir à un moment dans la steppe et l'émotion qui est associée à ce moment.
Merci.
Alors, je vais vous faire écouter juste quand même.
J'avais l'impression, en écoutant Benoît, d'écouter Jean-Claude Amezen.
Un peu.
Je vais vous faire écouter quand même, parce que je vous en ai apporté des... Je vais vous faire écouter, parce que mes préférées sont quand même... J'ai découvert celles qui viennent de Russie. Alors, d'abord, on les appelle les varganes. Alors, celle-ci, elle est fabriquée par deux frères. Le nom de famille, c'est Potkin. Il y a Pavel Potkin qui a fabriqué cette vargane bourdon, on va dire la traduction, et qui est vraiment un instrument méditatif.
Ah oui, on comprend.
Bravo.
Que ça soit très méditatif.
Et cette deuxième guimbarde, la vargane glazirina, compas, parce qu'elle a une forme de compas, voilà, qui est un peu plus moderne et avec un son qui se tient. Enfin, c'est très bizarre, comme cette guimbarde-là.
Très différent.
Ouais, là on se croit vraiment dans le côté Grand Ouest là. Ouais.
Et vous vous souvenez de ma guimbarde en bois là, dont je vous avais parlé tout à l'heure?
Bien sûr, que tu avais acheté sur un coup de cœur.
Eh bien, j'ai fait ce que font les compulsifs comme moi, comme dit ma femme, quand j'ai une lubie, je ne sais pas m'arrêter. Donc j'ai recherché qui avait fabriqué cette guimbarde et j'ai découvert que c'était un artisan slovaque qui s'appelle Peter Sobota. Et je me suis dit, qui ne tente rien à rien, j'ai pris contact avec lui. Ben, pour discuter avec lui, dire que j'avais trouvé une de ces guimbardes en France. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté un peu. C'est le bon côté d'Internet qui permet parfois de rapprocher les humains qui sont loin. Et puis, je lui ai commandé quelques guimbardes qu'il m'a gentiment envoyées par la poste.
Super.
Et c'est là où. Alors, ça a été un grand mystère pour moi, cet instrument, parce que des guimbardes que j'avais commandées en France sont arrivées 15 jours plus tard. Des guimbardes commandées en Slovaquie, envoyées le mercredi, arrivées le samedi dans ma boîte aux lettres. Je n'ai pas compris quelle était la magie de ces instruments-là. Alors si vous avez envie de commencer la guimbarde,
oui.
Moi je vous déconseille les jouets vendus dans la plupart des magasins de musique. Mais il y a certains magasins qui proposent des guimbardes sérieuses avec lesquelles on peut se faire plaisir et qui vous accompagneront dans votre monde intérieur. Alors par exemple, pas très loin d'ici, à Belleville, le petit, alors je dis petit en taille, mais un beau magasin de musique qui s'appelle Fadiez Music, bah vous trouverez les Drombla Slovaques de Peter Sobota. Voilà.
D'accord.
Et puis à Lyon, sur les quais de Saône, chez Pikebok, bah vous trouverez les fameuses Danmoy vietnamiennes et puis d'autres guimbardes en bambou qui viennent d'autres contrées. Et puis après, vous pouvez en chercher d'autres ailleurs et trouver.
Attention, c'est de l'addiction.
Un moment. Et puis vraiment, si vous devenez comme moi un addict à la guimbarde, mais vous pouvez avoir le projet de vous rendre au festival de la guimbarde, parce qu'apparemment il y a tout un groupe de drogués qui en Auvergne chaque année fait un festival dédié à cet instrument, avec des cours, avec des conférences, enfin plein de choses. Ouais. J'arrête parce que là.
Ah oui, parce que c'est. Non, merci beaucoup parce que c'est passionnant. C'est vrai que cet instrument qui, faut bien le dire, ressemble pas à grand chose, mais qui au final, oui, c'est un univers où on part de manière instantanée, on part ailleurs. Quoi.
On vagabonde.
Ah oui, on vagabonde. Alors, on va vagabonder encore quelques minutes et cette fois pour terminer notre tour d'horizon de vagabondage culturel. Un peu de littérature. Alors, pour ce vagabondage de rentrée, il n'y aura pas de coup de cœur du libraire, mais un coup de cœur général pour quelques titres que l'on aime, quelques rencontres, quelques dates aussi qu'on a envie de faire partager. Sandra, premier coup de cœur dans cette rentrée littéraire?
Eh bien, premier coup de cœur, je me suis saisie aussi vite que possible du dernier livre de Jeanne Benhamer qui s'appelle « Ceux qui partent ». Et j'allais dire que déjà le titre amène très très loin, parce qu'en lisant « Ceux qui partent », j'ai continué la phrase en disant « Ceux qui quittent leur pays ne le font pas dans la joie ». Ils ont l'espoir d'un monde meilleur ailleurs, certes, mais ils ne le font pas dans la joie. On ne quitte pas son pays impunément à la légère. Enfin, déjà, le titre m'a inspiré tout ça. Jeanne Benhamer nous fait revenir quelques années en arrière, puisqu'on se retrouve sur Ellis Island, aux portes de New York, donc en 1910. Et c'est un peu un roman choral, puisque nous allons croiser différents différents personnages, dont deux Italiens, Emilia et son père, un bohémien, Gabor, aussi. Voilà, et un photographe qui va faire un petit peu le lien entre tous ces personnages et qui va représenter celui qui est enraciné sur le sol américain, tandis que eux arrivent, voilà, et cet homme se questionne autour de finalement quand est-ce qu'on est migrant ou encore immigrant, puisque lui-même vient de famille immigrante, quand est-ce qu'on ne l'est plus, voilà, et évidemment ce livre résonne aussi avec notre actualité.
Donc et encore voilà. Un grand Ben Hamer, oui, comme d'habitude, parce que je sais que oui. Tu es une grande fan.
Oui, voilà.
Pour ma part, en 30 secondes, un coup de cœur, alors ça pourrait être le coup de cœur du libraire, mais pas que, c'est le nouveau livre de Bérangère Cournu, alors que j'ai eu l'occasion d'accueillir il y a quelques années maintenant, pour Née contente à Oraibi, autour d'une jeune indienne sur les hauts plateaux du Nouveau-Mexique. C'était tout un univers autour du monde de la nature, autour du monde des esprits. C'était absolument magnifique. On n'était pas très loin de l'ethno. Et là, du coup, elle est partie de nouveau vers un nouveau peuple, vers une nouvelle jeune fille. Et là, on est chez les Inuits. Et donc là, pareil, on part dans cet univers où la nature est...
Des joueurs de guimbarde aussi.
Alors, il va falloir l'arrêter. Je pense que là, Benoît a franchi des frontières. Et donc, c'est de nouveau magnifique. Ça s'appelle De pierre et d'os, toujours aux éditions du Tripode. Le livre est en plus très, très bien fait parce qu'il y a tout un... il y a tout un petit espace pour des photos. Et c'est voilà, un très, très beau livre. Sylvie... toujours pour rester dans l'actualité un peu littéraire, mais pas que. Deux, trois petits rendez-vous.
Oui, ben, un rendez-vous le 10 octobre chez Écriture et Papyrus à Villefranche avec Catherine Touvenin, qui est énergéticienne diplômée en acupuncture et qui propose une rencontre-conférence sur le langage des rides, la cartographie ridologique. Elle part du postulat que nos rides nous racontent, qu'elle dévoile à la fois nos émotions, notre état de santé.
Elle était déjà venue nous voir à Vagabondage.
Elle avait déjà participé à une émission de Vagabondage.
Et une deuxième rencontre.
Une deuxième rencontre qui aura lieu le 14 novembre. J'en reparlerai avec Mohamed El Amraoui, qui nous parlera de, à la fois de la langue arabe et de la langue française et des passerelles qu'il a pu faire entre les deux.
D'accord. Et puis pour rester dans une certaine actualité, donc on annonce déjà que le prochain salon du livre de Villefranche, la vague des livres, aura lieu le 4-5 avril 2020. Et il y a un prix du roman qui, comme chaque édition, est présent. Et donc, c'est toi, Sylvie, qui gère ce prix du roman.
Je pilote le jury. Il y a 11 personnes dans le jury. Donc, on attend, si vous avez publié en 2019, envoyez-nous votre roman pour concourir au prix du roman.
Voilà, vous allez sur le site La Vague des Livres et vous aurez toutes les informations. Nous allons nous quitter. C'est la fin de ce vagabondage de rentrée. Vous pouvez nous retrouver évidemment en réécoute sur le site de Radio Calade, 100.9. Et on... D'abord, merci. Merci à Sandra, merci à Sylvie, merci à Benoît. Et on va se quitter avec une nouvelle voix. Vous savez que les nouvelles voix, c'est toutes les années, du 19 au 23 novembre, au Théâtre de Villefranche, mais pas que. Et on aura l'occasion de découvrir un tout jeune chanteur, Martin Luminet, qui sera le 19 novembre au Théâtre de Glézé. Et c'est assez envoûtant. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Faire un petit besoin, et moi comme eux, je fais des fondements, je me suis fumine dans l'estomac, j'aimerais plus comme avant. C'est à partir de là, je suis devenu une sale personne. D'ailleurs, si ça tente, on passe l'après-midi ensemble. En attendant d'aimer, on gâchera toute notre existence. Mais est-ce qu'on vit pas mieux dans l'erreur?